Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Nous continuons notre série concernant les anges qui nous servent. Nous arrivons à l'étude numéro 8 et nous aurons trois courts sujets. Premièrement, l'ange qui partage notre joie. Deuxièmement, l'ange qui délivre de l'angoisse. Et troisièmement, l'ange qui dénoue les liens. Revenons au thème numéro 1, l'ange qui partage notre joie. Dans l'évangile de Saint Luc, Jésus raconte la parabole de la drachme perdue. Il est dit, c'est Jésus qui le dit, ou bien, quelle est la femme qui, si elle a 10 drachmes et vient en perdre une, on pourrait dire 1 euro, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé. Et quand elle l'a retrouvée, elle assemble ses amis, les voisins, et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée, la drachme que j'avais perdue. Et c'est ainsi que je vous le dis, qu'il naît de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Je répète avec la version allemande, « Je vous le dis, qu'il y a de la joie dans le ciel devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent, pour une seule âme que vous pouvez toucher pour qu'elle puisse être sauvée par votre témoignage. » Saint Luc, chapitre 15, versets 8 à 10. Le chiffre 10, c'est le nombre de la complétude. En perdant une drachme, cette femme perd son propre centre. Elle en est exclue. Elle allume alors la lampe de sa conscience et cherche la drachme perdue dans la maison qui représente sa vie. Car la drachme symbolise l'image du Christ en nous. C'est notre véritable soi. C'est le noyau de notre être authentique. Et quand la femme a retrouvé l'image originelle et inaltérée du Christ en elle-même, elle célèbre avec ses amis, avec ses voisins, la fête de son accession au véritable soi-même. Voyez-vous, Jésus compare donc cette fête de l'être humain qui a trouvé la voie de son authenticité avec la joie qui règne parmi les anges de Dieu quand un seul pécheur se convertit. Les anges célèbrent dans les cieux la fête de notre accession à la véritable humanité, car ils s'en réjouissent tous. En effet, tous leurs efforts visent à faire que notre vie soit une réussite et que nous puissions vivre comme Dieu l'avait voulu. Tout être humain a besoin, dans la maison de son âme, d'anges qui se réjouissent qui se réjouissent avec lui quand il réussit sa vie, quand elle réussit sa vie, qui donne des ailes à son âme et comble son cœur de joie. Par le mot pécheur, il faut entendre l'être qui a manqué son but, un être humain qui vit à côté de lui-même, qui vit de sa propre vérité, qui passe donc totalement à côté de Dieu. Alors s'il retrouve la bonne direction, s'il retrouve le chemin qui le mène à lui-même et à Dieu, les anges se réjouissent avec lui. Celui qui s'est égaré, les anges l'aident aussi à rebrousser chemin et à se réengager sur la bonne voie. Le sens propre du verbe grec metanoiain, c'est de penser autrement. Ça veut dire changer sa pensée. C'est dans la pensée que commence la conversion, metanoia. Notre pensée, elle nous égare assez souvent. Nous ne pensons pas d'une façon qui correspondrait à la réalité. Nous faisons au contraire des illusions sur elle. Nous suivons le cours d'idées, souvent un peu n'importe lesquelles, qui nous viennent ou que d'autres nous imposent de l'extérieur. Alors nous pensons un peu comme tout le monde. Notre pensée est donc dirigée à notre insu même, souvent par les autres. Il nous faut donc apprendre à penser par nous-mêmes, à penser conformément à la réalité. Quand nous le faisons, notre ange gardien se réjouit. La question est donc de savoir comment nous pouvons apprendre tout cela. Repousser chemin, penser autrement et de telle façon que notre pensée concorde avec la réalité. En effet, elle subit depuis notre plus tendre enfance l'influence bien souvent on peut dire qui sont des informations déformées. Ça peut venir de nos parents, ça peut venir des êtres avec lesquels nous avons des relations particulièrement étroites. Nous apprenons donc à voir la réalité comme d'autres la voient. Et pourtant, nous constatons sans cesse que certains enfants pensent heureusement par eux-mêmes. Ils perçoivent le réel autrement, sans altération. Ils ont donc un flair infaillible pour les êtres qui leur font du bien et pour en éviter d'autres qui leur donnent l'impression de ne pas respecter leur intégrité. Ils se fient donc au sentiment spontané qu'ils ont du réel et sont souvent capables de l'exprimer avec une étonnante clarté. Qui donc aide l'enfant à développer sa propre pensée alors qu'il est pris dans un monde de représentations fixées une fois pour toutes? Voyez-vous, nous pouvons dire que l'enfant porte en lui quelque chose d'originel, d'authentique, qui ne peut être facilement altéré de l'extérieur. Nous pouvons dire aussi qu'il y a un ange qui met l'enfant en contact avec son véritable soi et lui apprend à penser par lui-même. Cet ange, alors, se réjouit quand l'enfant regarde la réalité conformément au véritable fond de celle-ci, tel qu'il le perçoit. De même, l'ange se réjouit avec l'enfant quand, après avoir fait des détours et des erreurs, il repousse chemin et trouve la voie qui lui correspond vraiment. Au cours de son existence, chacun de nous s'engage sur des chemins qui ne mènent nulle part dans des impasses au fond desquelles nous nous heurtons à un mur ou encore dans des détours qui paraissent sans fin, qui vont à contresens ou aboutissent à l'enlisement carrément. Et tout comme le fils prodigue, nous comprenons soudain que nous ne pouvons plus continuer ainsi. Je veux partir et je veux aller vers mon Père. Saint-Luc chapitre 15, verset 18. Le verbe grec anastas, qu'on lit à cet endroit-là, signifie, à proprement parler, pardon, se lever, se mettre debout. Et c'est aussi le mot qui est employé à propos de la résurrection. Il vient donc un moment quelconque où dans notre cheminement erratique, nous voulons nous lever et suivre la voie qui est vraiment la nôtre. Alors, nous fêtons en quelque sorte notre résurrection. Et l'ange, eh bien oui, il l'a faite avec nous. Oui, c'est lui qui nous a inspiré l'idée de nous lever et de ne plus nous laisser pousser ou dériver sur des chemins qui ne nous mènent absolument nulle part. D'oser donc nous soulever contre tout ce que nous tient à l'écart du chemin qui conduit à la véritable vie. Il est donc réconfortant de savoir que notre ange nous accompagne même dans nos détours et dans nos égarements. Il a de toute évidence beaucoup de patience envers nous. Il ne nous abandonne jamais. Quelques aventureux que soit notre chemin, et il nous est donc permis d'espérer en toute confiance qu'il se manifestera un jour ou l'autre et qu'il nous mettra au cœur le désir véritable de nous lever, de nous mettre en route et de choisir la voie qui nous mène vers beaucoup plus de vie et de liberté. Voyez-vous, parfois, nous entendons la voix de l'ange à travers celle d'un autre être humain, ça arrive, ou encore dans les pulsations légères de notre cœur, mais seulement si nous avons perdu une drachme, comme la fameuse femme de la parabole. C'est-à-dire que nous avons perdu notre centre et notre équilibre. Il n'est jamais trop tard pour reprendre le départ, pour allumer la lampe de notre conscience et de nous mettre en quête de notre soi perdu et de célébrer la fête de notre accession à la complétude et à l'union avec Dieu. Alors là, notre ange la célèbre avec nous, et avec nous, il se réjouit. Alléluia. Deuxièmement, nous avons l'ange qui nous délivre de l'angoisse. Dans le récit de la scène au Mont des Oliviers, tel que le présente l'évangile de Saint Luc, un ange apparaît à Jésus et le réconforte alors qu'il prie dans son agonie. Doit-il prendre la fuite ou doit-il tenir bon? Il lutte avec Dieu son Père. Peut-il vraiment vouloir qu'il meure? Il a voulu, lui, proclamer aux hommes. Il a voulu leur proclamer la bonne nouvelle d'un Père miséricordieux. Il a voulu témoigner devant eux de sa bonté et de son amour pour les hommes et conduire ceux-ci sur la voie de la paix et de la vie. Mais voilà que les représentants des Juifs, les Sadducéens, qui sont des partisans de Rome, se sont tournés contre lui. Va-t-il devenir infidèle à sa mission et va-t-il se sauver, lui seul? Se peut-il que Dieu son Père le livre et l'abandonne à la mort violente? Dans sa prière d'agonie, il demande instamment au Père: si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce soit pas ma propre volonté, mais uniquement la tienne qui se fasse. Saint Luc, chapitre 22, verset 42. L'ange l'assiste alors. Il l'assiste dans son agonie, dans son angoisse. Et cette angoisse de Jésus, Saint Luc la décrit de façon très réaliste. Entré en agonie, est-il dit, Jésus priait de façon plus instante et sa sueur est devenu comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre. Saint Luc chapitre 22, verset 44. Le mot grec pour l'angoisse est ici agonia, de agone. C'est la lutte, c'est un combat. L'agonie, c'est donc le bouleversement intérieur, l'appréhension, l'inquiétude au sujet de la victoire. C'est l'ultime tension des forces avant les décisions et les catastrophes. Ce mot exprime l'angoisse de la mort. Cela exprime toutes les forces qui se cabre une dernière fois en celui qui va être assassiné. Chez Jésus, c'est l'angoisse de tomber dans le néant, celle qui précède le combat dont l'enjeu est la vie ou la mort. C'est l'angoisse devant un supplice dont il ne peut prendre toute la mesure face au despotisme du pouvoir auquel il est livré sans recours. Or, dans cette angoisse, l'ange se trouve à ses côtés. Il la transforme en une force totalement nouvelle. En effet, après ce combat, Jésus a retrouvé son calme. Il s'est redressé et il va vers ses disciples et il leur dit: qu'avez-vous à dormir? Relevez-vous et priez prier pour ne pas entrer en tentation. Saint Luc chapitre 22, verset 46. La prière a donc aidé Jésus dans la tentation et dans le désarroi à retrouver la clarté et la force de suivre son chemin. L'angoisse visite aujourd'hui bien des personnes, même s'ils ne la manifestent pas au dehors, eh bien, elle les accompagne vraiment en permanence. Et s'il leur arrive de pouvoir parler d'eux-mêmes en toute ouverture, le thème central de leurs propos, c'est l'angoisse et la peur. Peur de la défaillance, peur de se déconsidérer, de se rendre ridicule. Certains ont peur des gens qui exercent un pouvoir. Alors la panique les saisit lorsqu'ils sont critiqués, lorsqu'ils doivent affronter l'autorité des autres. C'est la peur que ces autres ne puissent faire d'eux tout simplement tout ce qu'ils voudraient. Les exploiter. Il y a aussi la crainte d'être rejeté, de ne plus être apprécié parce que l'on a fait une erreur ou une petite faute. Ce peut être encore une angoisse diffuse que l'on ne parvient pas à s'expliquer clairement. Peur, par exemple, de l'obscurité, peur des espaces resserrés, peur des hôpitaux, peur des cambrioleurs. Ce peut être également l'angoisse existentielle devant la maladie et la mort, ou celle d'être passé à côté de sa vie, de ne pas parvenir à la maîtriser. Alors nos angoisses et nos peurs se nourrissent de peurs ancestrales qui font partie à l'évidence de la condition humaine. Elles sont tapies ainsi au fond de notre inconscient collectif et tous les peuples les formulent dans leurs mythes et dans leurs légendes. L'angoisse de l'anéantissement, la peur d'être carrément englouti, voyez-vous, c'est inimaginable. Quant aux angoisses qui nous prennent devant une situation concrète, elles sont aggravées par celles que nous avons vécues dans notre petite enfance. Telle femme a dû séjourner alors assez longtemps à l'hôpital sans y recevoir une seule visite. Imaginez, pendant des mois, souffrir à l'hôpital sans que une seule personne vienne pour vous voir, pour vous consoler, pour prier avec vous, simplement vous apporter une fleur, un petit chocolat, quelque chose. Et quand elle entre maintenant dans un hôpital pour aller voir un ou une malade, eh bien l'angoisse ressurgit en elle, on la comprend. Dans certaines situations, elle éprouve des angoisses de perte, de privation, que rien d'objectif ne justifie. Elle en connaît l'origine archaïque et elle sait désormais mieux les gérer. Mais toujours, ces angoisses remontent et accentue celle que provoquent les expériences actuelles. Est-elle autre femme ? A peur de toute autorité, quelle qu'elle soit. Parce que l'autorité lui rappelle son père, qui l'a brutalement battue devant lequel elle était sans force et sans recours. Chaque fois que quelqu'un lui adresse la parole d'une voix un peu forte, elle est reprise par cette peur infantile du père qui crie et qui frappe. À l'évidence, il y a des angoisses et des peurs dont certes l'origine peut être amenée à la conscience et travaillée, mais qu'il n'est pas possible toujours de dissiper complètement, elle demeure en dépit de la prise de conscience. On peut essayer de vivre avec elle quand on en connaît la racine. On ne porte plus sur soi-même de jugements négatifs lorsqu'elles surgissent. On les accepte, ce qui permet de les relativiser. Il est donc inutile de lutter contre l'angoisse. Cela ne fait que la renforcer. Il faut donc se familiariser avec elle, s'autoriser ce que l'on redoute. Vous savez, c'est terrible. Et par exemple, l'on commet un impair, ça peut nous arriver à tous, et que l'on se met à bégayer ou à transpirer à force d'émotion et d'insécurité. Qu'arrive-t-il alors ? Est-ce réellement aussi grave, aussi terrible qu'on le craignait ? Est-on pour autant rejeté de tous ? Quand on fait une erreur ou une faute, n'a-t-on pas le droit de se le pardonner à soi-même ? On peut aussi avoir à l'esprit qu'un ange est là, là, tout près de nous, dans notre angoisse. Nous ne sommes donc pas seuls avec elle. Il faut accepter l'angoisse, car elle a sa raison d'être, mais nous savons que nous n'y sommes pas abandonnés, car un ange nous accompagne. Et cet ange intérieur nous fait saisir la confiance qui est toujours en nous, tout autant que l'angoisse. L'angoisse de Jésus ne s'est pas aussitôt dissipée quand l'ange est venu le réconforter, mais pour lui, quelque chose a changé. Si je me représente qu'un ange est là, tout près de moi, dans mon angoisse, cela ne suffit pas à la faire disparaître, mais il s'y glisse un rayon d'espérance. Parfois, l'angoisse apparaît comme un abîme. On ne sent plus le sol sous ses pieds. Dans ce vertige, l'image de l'ange, qui même alors m'accompagne, me remet en contact avec le sol, fût-il encore instable. Je ne suis plus totalement livré à l'angoisse. Je peux, et cela grâce à cet ange, qui se trouve à mes côtés, retrouver un espace où règne la confiance. Que croyez-vous aujourd'hui, en ouvrant la radio, Voilà que sur France Info, ils disent qu'il y a des régions entières qui sont inondées. Il n'y a pas des centaines, des milliers de personnes qui perdent leur maison, qui perdent tout ce qu'ils possèdent, et des agriculteurs qui ont les champs tellement trempés d'eau que c'est impossible de cultiver quoi que ce soit. À certains endroits, ont-ils dit, il y avait jusqu'à 5 mètres d'eau. Ils ont montré à la télévision du soir des voitures qui se trouvaient sous l'eau. On voyait à peine le capot. Que pensez-vous? C'est terrible, tous ces gens qui ont tout perdu, tout. Dans le même journal du jour, c'est quand même affreux, tout ce qui se fait actuellement, c'est pire que j'ai jamais connu cela quand j'étais un jeune homme. Ils ont montré que 260 000, ou j'espère de ne pas me tromper, si c'est 360 000, j'en suis pas sûr, ont perdu d'un seul coup leur emploi. Il s'agit pas de 2-3 personnes. Il s'agit de soit 260 ou 360 000 personnes. Parce que ils ont mis tous des robots à leur place. On est dans un monde dangereux, très dangereux. Alors vous comprenez que ces gens-là vivent des angoisses qui sont inimaginables. Troisièmement, nous avons l'ange qui nous dénoue les liens. Dans le livre des Actes des Apôtres, Saint Luc nous raconte comment l'apôtre Pierre a été miraculeusement libéré de son cachot par un ange. Hérode l'avait fait jeter en prison. Or, la nuit même, avant le jour où Hérode devait le faire comparaître, l'apôtre Pierre était endormi, figurez-vous bien l'image, entre deux soldats authentiques. Il était enchaîné, lié, et des sentinelles gardaient la prison. Soudain, l'ange du Seigneur survint, et le cachot fut inondé de lumière. L'ange frappa l'apôtre Pierre au côté, et il l'a fait lever. Il lui a dit, « Debout, vite, dépêche-toi !» Et les chaînes lui sont tombées des mains. L'ange lui dit alors, « Mets ta ceinture et chausse tes sandales, ce qu'il a fait en vitesse. » Il lui dit encore, « Jette ton manteau sur tes épaules et suis-moi. » L'apôtre Pierre sortit et il le suivait. Il ne se rendait pas compte que c'était vraiment la réalité, ce qui se faisait par l'ange. Mais il se figurait avoir une vision, tellement que c'était invraisemblable et pourtant réel. Alors ils franchirent ainsi un premier poste de garde, puis un second, et ils sont parvenus à la porte de fer qui donne sur la ville. Et cette porte de fer, d'elle-même, elle s'est ouverte devant eux. Ils sortirent, allèrent jusqu'au bout d'une rue, et là, brusquement, l'ange le quitta. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 6 jusqu'au verset 10. Bien des gens se sentent comme l'apôtre Pierre en prison, ligotés et gardés par deux soldats. L'apôtre Pierre n'a aucune chance de s'en sortir. La prison, ce peut être une angoisse qui nous paralyse. Ce peut être aussi une relation dans laquelle nous nous sentons enfermés. La prison peut être encore celle de nos propres limites. On a donc l'impression de ne pas pouvoir sortir de soi-même. On y est empêtré, on est captif de ses passions. On est rempli de blocages et d'inhibitions. À droite et à gauche, il se trouve deux soldats. Ils représentent la loi. Souvent, notre prison intérieure est gardée par les représentants de la loi, par notre propre surmoi qui nous enseigne à coups de fouet ce que nous devons faire ou ne pas faire, et que tout est de notre faute. Et dès que nous avons enfreint les commandements du surmoi, les soldats nous punissent en usant de violence. L'apôtre Pierre est même obligé, et c'est vrai, obligé, figurez-vous, de dormir entre les deux soldats. Il n'a aucun espace de mouvement. Le surmoi peut se changer en une instance de contrôle qui nous poursuit partout, jusque dans le sommeil. Tout acte, même petit, est pour lui l'occasion de nous juger et de nous condamner. Si nous nous réjouissons d'un succès, le verdict intérieur tombe tout aussitôt. C'est de l'orgueil. Et quand nous voulons dire quelque chose, le surmoi exerce sa pression pour que la parole soit exactement ce qui convient. Certains se sentent dans leur prison, tout aussi privés de chance d'en sortir que l'apôtre Pierre dans la sienne. Eux aussi, ils ont besoin qu'un ange vienne à eux, au cœur de la nuit, pour les libérer de leurs chaînes, qui les frappe aux côtés pour qu'ils se lèvent et prennent le chemin de la liberté. Se lever, cela le prisonnier doit le faire lui-même. Les chaînes ne peuvent tomber de ses mains que s'il adopte une attitude active. L'ange donne encore d'autres ordres. Il dit « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. Jette ton manteau sur tes épaules et suis-moi. » Celui qui se sent prisonnier, prisonnier de ses passions et de ses pulsions, de ses angoisses et de sa dépression, eh bien, il doit ou elle doit se ceindre de la ceinture de ses propres forces. Mais la ceinture n'est pas seulement l'image de ses forces, c'est aussi celle de sa disposition à faire ce qui est en son pouvoir. Les sandales et le manteau, Cela signifie que l'on est prêt à se mettre en route, en suivant tout simplement l'ange. Tant que celui-ci marche devant l'évadé, les sentinelles n'interviennent pas. En face de l'ange, les gardiens du surmoi sont totalement désarmés. Et quand nous sommes en contact avec l'ange, les voix du surmoi sont réduites au silence et les portes s'ouvrent toutes seules. Ils s'ouvrent devant nous et l'ange nous mène à la ville, il nous mène à la liberté, il nous mène à la vie. Peut-être l'ange viendra-t-il à nous aussi dans le sommeil et dans le rêve. L'apôtre Pierre n'arrive pas à savoir si ce qui arrive est un rêve ou la réalité sur le moment, tellement qu'il est surpris. C'est le rêve qui se concrétise, qui se réalise. Il est réellement sorti de sa prison. Et quand l'ange vient à nous, souvent, nous ne savons pas, nous non plus, s'il s'agit d'un rêve ou d'une réalité. Or, le rêve est lui aussi une réalité qui produit des effets sur la réalité extérieure. Si nos liens se dénouent dans le rêve, nous aborderons beaucoup plus librement la réalité quotidienne. Ce qui se passe dans l'inconscient est absolument réel et produit du réel jusque dans la vie consciente. Si je rêve que les murs de ma prison s'écroulent, alors c'est ma prison réelle qui s'ouvre devant moi. Si je rêve que mes persécuteurs perdent ma trace, alors j'ai fait un pas de plus sur le chemin qui me mène à celui que je suis en vérité. Chers amis, nous allons prier et ensuite j'essayerai de vous mettre une ou deux mélodies de 1962. En ce temps-là, il n'y avait ni CD ni cassette. C'était que des bandes magnétiques. Bref, je voudrais simplement vous dire, la vie actuelle, elle devient de plus en plus terrible. Et souvent je dis, le pire est à venir. Or, si vous possédez Internet, vous pouvez trouver sur Internet 3xW, Bible explique en un seul mot, .ch. Et là, vous pouvez trouver plus de 3000 sujets. Vous pouvez trouver tout ce qui concerne, par exemple, le ciel, l'enfer. Vous pouvez trouver tout ce que vous pouvez trouver qui peut vous aider dans votre vie actuelle. Et si cela vous intéresse, puisque nous arrivons dans des temps inimaginablement dangereux, eh bien vous pouvez écouter toute la série sur les prophéties, c'est-à-dire tout ce qui va encore arriver. Et vous verrez, c'est très intéressant. Une autre chose, vous pouvez aussi trouver le témoignage authentique de Marietta. C'est un témoignage inimaginable, bouleversant et très, très, comment est-ce qu'il faut dire, qui va, pour beaucoup d'entre vous, ouvrir des possibilités de mieux comprendre la Sainte Parole de Dieu et de tout ce qui va arriver. Chers amis, maintenant, nous allons donc terminer par la prière et j'essayerai de vous mettre quelques mélodies de 1962. Prions. Ô notre Dieu, élève toi-même nos cœurs et nos pensées vers ces choses invisibles qui sont éternelles. Donne-nous de nous affectionner aux choses qui sont en haut et non point à celles qui sont sur la terre. Détache nos cœurs de tout ce qui est terrestre et passager, et que nous soyons fondés et enracinés en toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ô que nous sommes heureux de te connaître, Seigneur. Quelle grâce tu nous as faite de te révéler à nous. Nous t'invoquons pour tous ceux dont le cœur appartient encore au monde et qui poursuivent des choses qui n'ont que l'apparence, surtout pour les membres de nos familles qui ne te connaissent point encore. Tourne leur cœur vers toi, qui es l'auteur et la source de tout bien. Révèle-toi à eux comme leur Dieu sauveur, qui est seul capable de satisfaire leur cœur et de pacifier leur conscience. Rends-nous fidèles envers eux, Seigneur, fidèles dans notre témoignage, fidèles dans notre vie, afin qu'elle soit elle-même un vrai témoignage. Nous te prions aussi pour les affligés qui souffrent loin de toi, sans Dieu et sans espérance. Seigneur Jésus, approche-toi d'eux, sers-toi de leurs souffrances même pour les appeler à toi. Montre-leur qu'il n'y a aucune proportion entre les souffrances du temps présent et la gloire, cette gloire à venir qui doit être manifestée, et que ta présence et ton amour peuvent adoucir la peine la plus amère. Exauce-nous, ô Seigneur, pour l'amour de tes compassions. Amen. Amen. Et maintenant, je veux essayer, si ça fonctionne, de vous mettre quelques mélodies du lointain passé.
Tonight, while the snowflakes are falling, here in my dreams I can see the white cherry blossoms of Shaumont, where I walk with Anna Marie. Anna I miss you, Anna. I knew as I crossed the sea that I'd never love any other as I love my Anna Marie. Anna Marie, Anna Marie, my heart remembers and sighs. Sebu, Sebu, mi ami boku, I miss you, Anna Marie.
I miss you, Anna Marie.
This world is not my home, I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. I have a loving mother just over in glory land, and I don't expect to stop until I shake her hand. She's waiting now for me in heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Just over in glory land we'll live eternally. The saints on every hand are shouting victory. Their songs of sweetest praise drift back from heaven's shore, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Sometimes they ask me if I'm really happy now. I say, sure, I never loved her anyhow. But inside I long for you and the way it used to be. I look around, there's a heartache following me. I always say that I'm really glad you're gone. I even act like I never cared at all. But your memory lingers on, and I'm never really free. I look around, and there's a heartache following me. I pawned my ring and everything that tied me to the past. I say I never loved her, never meant for it to last. But I know it's just a game, and the loser's always me. I look around, there's a heartache following me.
Am I losing you? Are my
happening to me.
Happening to me.
Every road has a bend.
Road has a bend.
Will I be sweetheart or friend?
Sweetheart or friend.
Will the sweet thing what's been happening to me?
Happening to me.
Every road has a bend.
Road has a bend.
Will I be sweetheart or friend?
Sweetheart or friend.
Will the sweet things you do be for somebody new? Tell me what to do. I know that I won't forget you, for I've loved you too much for too long. Though you don't want me now, I'll still love you till the breath in my body is gone. That's how it is with me, and you'll always be the only love I ever knew. I'll forget many things in my lifetime, I won't forget you. That's how it is with me, and you'll always be the only love I ever knew. I'll forget many things in my lifetime, but darling, I won't forget you.
Open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh, Lord, you know I have no friends like you. If heaven's not my home, then, Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Just over in glory land we'll live eternally. The saints on every hand are shouting victory. Their songs of sweetest praise drift back from heaven's shore, and I can't feel at home in this world anymore. Oh, Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then, Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore.
Beside a singing mountain stream, where the willow grew, where the silver leaf of maple sparkled in the morning dew, I braided twigs of willow, made a string of buckeye beads. But flesh and blood needs flesh and blood, and you're the one I need. Flesh and blood needs flesh and blood, and you're the one I need. I leaned against the bark of birch, and I breathed the honeydew. I saw a northbound flock of geese against the sky of baby blue. Beside the lily pad, I carved a whistle from a reed. Mother Nature's quite a lady, but you're the one I need. Flesh and blood needs flesh and blood, and you're the one I need. A cardinal sang just for me, and I thanked him for the song. Then the sun went slowly down the west, and I had to move along. These were some of the things on which my mind and spirit feed. But flesh and blood needs flesh and blood, and you're the one I need. Flesh and blood needs flesh and blood, and you're the one I need. So when the day was ended, I was still not satisfied, for I knew everything I touched would wither and would die. And love is all that will remain and grow from all these seeds. Mother Nature's quite a lady, but you're the one I need. Flesh and blood needs flesh and blood, and you're the one I need.
The old gunfighter stood on the porch, stared into the sun, and relived all the old days back when he was living by the gun. When deadly games of pride were played, and living was mistakes not made, And the thought of the smell of the black powder smoke and the stand in the street at the turn of a joke. The thought of the smell of the black powder smoke and the stand in the street at the turn of a joke. And it's always keep your back to the sun, and you can almost feel the weight of that gun. It's faster than snakes or the blink of an eye, and it's a time for all slow men to die. His eyes get squinty and he's straight as a log as he empties his gun at the dirty dog. And he's hit by the smell of the black powder smoke and the stand in the street at the turn of a joke. Hit by the smell of the black powder smoke and the stand in the street at the turn of a joke. Now the burn of a bullet is only a scar, and he's back in his chair in front of the bar. And the streets are empty, and the blood's all dry, the dead are dust, and the whiskey's inside. So buy him a drink and lend him an ear. He's nobody's fool, and he's the only one here who remembers the smell of the black powder smoke and the stand in the street at the turn of a joke. Remembers the smell of the black powder smoke and the stand in the street at the turn of a joke. Said I stood in that street before it was paved. I learned to shoot or be shot before I could shave. And I did it all for the money and the fame. Noble was nothing but feeling no shame. And nothing was sacred but staying alive. And all that I learned from a Colt 45 was to cuss the smell of the black powder smoke and the stand in the street at the turn of a joke. Cuss the smell of the black powder smoke and the stand in the street at the turn of a joke. Now he's just an old man that nobody believes, says he's a gunfighter, the last of his breed. And there's ghosts in the street seeking revenge, calling him out to the lunatic friends. He's out in the traffic now checking the sun, and he's killed by a car as he goes for his gun. So much for the smell of the black powder smoke and the stand in the street at the turn of a joke. So much for the smell of the black powder smoke and the stand in the street at the turn of a joke. I left Kentucky back in 49 and went to Detroit working on assembly line. The first year they had me putting wheels on Cadillacs. Every day I'd watch them beauties roll by, and sometimes I'd hang my head and cry, 'cause I always wanted me one that was long and black. One day I devised myself a plan that should be...